Alors, gloire à Dieu. Notre prédication de ce matin est intitulée « Dévotion ou vérité ». La dévotion, c'est quoi ? C'est, comme c'est écrit dans le dictionnaire, un attachement avec ferveur et sincérité à une religion, à une conviction. Ça se traduit par des actes de dévouement. Voilà, dévotion est liée à se dévouer. Donc, quand quelqu'un se dévoue pour quelque chose, il est dans la dévotion. Maintenant, nous voulons dire ceci, c'est que la dévotion, ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un sent en lui une grande force concernant une position donnée que cette position-là est bonne. Beaucoup de gens confondent la dévotion et la vérité. Cette sensation d'aimer quelque chose, d'être attaché à quelque chose et la vérité, c'est pas toujours. Ça ne va toujours pas ensemble. D'ailleurs, comme nous allons voir, la vérité n'a pas besoin de dévotion. La vérité, c'est la vérité. Ça n'a pas besoin qu'il y ait des gens qui s'y consacrent fortement pour être proclamés vérité. Non, elle est la vérité, c'est la vérité, elle ne change pas, elle est comme ça. Comme nous avons autrefois donné l'exemple de 8 fois 5. 8 fois 5, c'est 40. Que tu sois en prison, que tu sois dans un palais royal, que tu sois riche, que tu sois pauvre, lorsqu'on va te poser la question, 8 fois 5, c'est combien? Tu donneras toujours 40. C'est ça la vérité. La vérité est au-dessus de tout. Mais malheureusement, les hommes ont tendance à prendre leur expérience personnelle comme étant la vérité. Ton expérience n'est pas la vérité parce qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui a une position contraire à la tienne, mais qui sent en lui aussi la même puissance, la même force de dévotion par rapport à la vérité, à par rapport à ce qu'il croit. Il y a un désordre aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Toutes sortes de doctrines et de façons de faire les choses. Et chacun se justifie en disant, mais je me sens bien dans ça. Il y en a qui disent, j'ai été touché dans cet endroit-là. Oui, mais être touché, c'est bien. Avoir de la dévotion, c'est pas mal. Mais il faut que ça soit dans la vérité pour que ça soit bien. La vérité et la dévotion, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens, comme nous venons de le dire, avec des pensées contraires qui ont la même flamme. Un exemple simple, lorsqu'il y a un match de football, les deux équipes sont opposées. Mais pourtant, les supporters des deux équipes ont la même flamme. Donc, si on considérait la flamme, le feu comme étant la vérité, mais où serait la vérité? Puisque les deux équipes sont opposées. Mais chaque équipe a le même feu, la même flamme, la même conviction. Les supporters ont le même feu. Ils soutiennent la France, les autres soutiennent la Belgique. Avec la même conviction. Alors, où est la vérité? C'est pour dire que nous devons faire la différence entre la conviction, la force que l'on sent et la vérité. La vérité aussi donne cette force, mais elle n'a pas besoin de cette force. Elle est la vérité, c'est comme ça. Il faut se rendre devant son évidence, se dire, bon, c'est ça la vérité, d'une manière objective. Comme nous venons de dire, ce n'est pas parce que tu te retrouves en prison que 5 fois 8 va changer. Ça va demeurer 40. Quand tu étais riche homme d'affaires, 5 fois 8, c'était 40. Eh bien, quand tu es prisonnier, quand tu es pauvre, 8 fois 5, c'est toujours 40. C'est ça la vérité. La vérité ne dépend pas de ce que nous ressentons, de ce que nous expérimentons. La vérité est comme ça et elle triomphera parce que c'est elle qui demeurera. Les autres choses, comme elles ne sont pas vraies, elles sont comme des illusions qui tiennent un temps. La vérité seule demeurera parce que c'est la vérité qui est. Et cette vérité, c'est Dieu. Dieu est. Et nous ne devons pas réduire Dieu à notre expérience, à notre dévotion. Et vous savez, quand vous êtes sur YouTube, vous allez entendre tout le monde dire sa dévotion, son expérience forte pour une doctrine, une position, un chemin donné. Maintenant, dites-moi, la vérité n'est-elle pas unique? Mais comment suivre tous ces gens-là qui n'ont pas la même position, mais qui ont tous la même dévotion? Donc, on va trancher comment? Vous voyez que nous sommes bloqués. Parce que si tu dois, comme a dit un serviteur de Dieu, si on te dit pourquoi tu crois en Jésus, tu dis mais parce qu'il a changé ma vie. Mais il y a certains, un Diams, qui a arrêté le rap, qui a changé de vie à cause de l'islam. Il y a des gens qui étaient des drogués, qui ont changé de vie à cause de l'islam. Il y a d'autres qui étaient, hein, sur Internet, il y a le témoignage d'un Abad, d'un ancien franc-maçon. Il a quitté la franc-maçonnerie comment? À cause, comme d'une, il a dit qu'il a eu une vision de Marie. Bon, c'est ça qui l'a fait quitter la franc-maçonnerie pour entrer dans le catholicisme. Vous voyez que si nous suivons cette logique-là de puissance, de force et de dévotion, nous ne saurons plus c'est quoi la vérité. La vérité ne dépend pas de ça. Parce que tous ces gens-là, que tous ces mouvements-là que j'ai cités, ont des positions opposées. Pourtant, ils peuvent produire ces mouvements, une certaine dévotion, une certaine force. Même les choses terre à terre, le football, tout ça, ça peut produire de la dévotion, de la force. Mais est-ce que c'est la vérité? Non. Parce que vous allez aller jusqu'en demi-finale, jusqu'en finale. Hein, vous êtes rempli de force, rempli de puissance. Arrivé en finale, vous perdez et vous commencez à pleurer. Vous voyez la différence entre la vérité et l'illusion? C'est que la vérité finit par se voir. Donc un jour, ça se verra que ton équipe n'était pas la meilleure. Voilà. Et celle qui a gagné aujourd'hui, un jour, elle perdra. Donc la vérité, aucune n'a la vérité. Aucune religion n'est la vérité. La vérité, c'est Dieu. C'est son fils Jésus. C'est ça la vérité. C'est très important de comprendre ces choses-là. Nous sommes dans la confusion aujourd'hui. Les gens disent, mais vous savez, quand on leur dit, mais la façon dont vous chantez, la façon dont vous faites les choses, ce n'est pas selon la vérité. Vous ne suivez pas la Bible. Ils vont vous dire, oui, mais comment se fait-il que les gens sont touchés et viennent? Mais les gens sont touchés par beaucoup de choses, mon ami. Les gens sont touchés par le foot, ils sont touchés par le basket, ils sont touchés par beaucoup de choses, par la musique du monde. Les gens sont touchés par des courants économiques. Les gens sont touchés par beaucoup de choses. Ils sont touchés par plusieurs religions. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un se sent bien dans quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est touché, entre guillemets, ce n'est pas parce que sa vie s'est transformée que la personne est dans la vérité. La vérité est au-dessus de tout ça. Nous allons voir dans notre premier texte, dans Ézéchiel 8, où on dit, mais attention, la dévotion, ce n'est pas la vérité. Et ça peut aller même très, très loin. Ézéchiel chapitre 8. Du verset, je crois, 16. Non, excuse-moi, c'est du verset 9 au verset 16.
Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens.
Voilà, Dieu prend Jérémie comme dans une vision, il le transporte dans une vision, il l'amène au temple où on est censé adorer le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Mais il dit, regarde ce que font, adorent ces gens-là, ils adorent des reptiles, les gens sont dans la dévotion avec des encensoirs. Vous savez, c'est tout un rituel qui se faisait là avec dévotion. Il dit, mais voilà, ces gens-là, ce n'est pas moi qu'ils adorent. Ils adorent des reptiles, des animaux. Et Dieu appelle ça abomination. C'est grave. Et lorsque nous lisons la suite, nous continuons à voir combien la dévotion est n'est pas égal à la vérité. Parce que là, on pourrait dire, tous ces gens-là, c'est quand même des gens d'un certain âge. Et c'est des gens qui, autrefois, étaient sérieux dans l'adoration de Dieu. Donc, c'est des gens respectables. Mais voilà ce qu'ils adorent. On pourrait dire, mais si des gens respectables comme ça adorent, font une adoration, font un culte, ben, c'est que c'est bon. Non ! C'est pas parce que c'est des gens respectables. Ce n'est pas parce que c'est des personnes d'un certain âge. Ce n'est pas parce qu'il y a toute une dévotion, un encensoir, tout ce que vous voulez, que c'est Dieu. Parfois, ça épate. Les gens, ça les épate. Ils disent, mais il a 75 ans, il paraît illuminé, il paraît fort, il paraît puissant, content. Mais donc, c'est que ce qu'il fait est bon. Non, 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 non. Et là, nous voyons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'adorer les reptiles, c'est mauvais quand même? Vous n'allez pas dire que ça, c'est bon? Et c'est ce que Dieu m'a dit, mais ils adorent des reptiles. Est-ce que tu adorais un crocodile? Est-ce que c'est sérieux ça? Mais c'est des gens respectables qui le font, avec dévotion. Nous continuons.
Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays.
Voilà, Dieu donne la raison. L'homme, pourquoi souvent il est conduit à des dévotions diverses? Parce que il n'a plus conscience ou il n'a pas conscience du véritable Dieu. Parce que Dieu ne fait pas toujours les choses selon nos désirs. Et l'homme va aller dans quelque chose qui répond à une soif charnelle, à son désir, au lieu de chercher la vérité tout court. Il va chercher quelque chose qui répond à un besoin, à une soif, à une conception qu'il a, lui, de choses, au lieu de dire, mais non, moi je veux la vérité est éternelle, elle est immuable, elle ne change pas, elle est pure, elle est droite. Non, il va chercher ce qui... Voilà, vous, voyez, vous vous souvenez, les enfants d'Israël, à un moment donné, ils en ont eu marre que Dieu soit leur roi. Ils ont dit à Dieu, nous voulons un roi humain physique que nous allons voir. Voilà. Donc, est-ce que ça, c'est la vérité? Non, la vérité, ils l'avaient. Mais à un moment donné, ça les gênait d'avoir comme roi quelqu'un d'invisible. C'est ce qui se passe pour beaucoup. La vérité les gêne parce que la vérité, quoique visible à travers la création, la beauté de la nature, à travers une voix qui nous parle dans le cœur, la vérité ne fait pas toujours ce que l'homme veut. Et donc l'homme conclut que la vérité n'est pas efficace. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Ils disent, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Ils se disent, mais Dieu, nous ne le voyons pas en action. Au fond d'eux, ce n'est pas dans la conscience. C'est pas dans le... Ils ne disent pas ça, ils ne parlent pas. C'est en eux. Mais bon, nous n'avons pas vu l'efficacité de Dieu. nous allons chercher autre chose. Bien-aimé, Dieu est efficace, mais il ne se soumettra jamais à la volonté de l'homme. Il fera ce que lui doit faire pour le bien de tous, pour le salut de l'humanité, pour que nous ne tombions pas dans l'orgueil. Il fera comme lui il veut, comme nous venons. Je le répète encore, 8 fois 5 ne changera pas parce que tu es en prison. 8 fois 5 ne changera pas parce que tu es cultivateur. Le 8 fois 5 du commerçant, c'est le 8 fois 5 du cultivateur et du prisonnier. C'est la même chose. Alors, les hommes n'aiment pas ça. Ils veulent adapter les choses à leur situation. Et Dieu, lui, ne bouge pas. La vérité ne change pas. Et ils finissent par dire, ben, nous ne voyons pas Dieu en action. Alors, essayons autre chose. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à essayer d'adorer des reptiles. Nous continuons.
Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. »
Il y a des femmes en pleine dévotion. Elles sont dedans, en train de pleurer Tammuz. Au fait, pleurer Tammuz, c'est un culte concernant un homme bon, que les gens ont déclaré comme une sorte de Dieu, mais cet homme-là, Tammuz, avait été tué. Et du coup, il y a comme un culte de pleurer Tammuz. Donc, c'est un ancien culte. Et ces gens-là, ils pleuraient Tammuz. Et ce culte-là est lié aussi un peu à Noël, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Puisque quand le soleil, quand on arrive au solstice de décembre, donc le soleil, les jours deviennent beaucoup plus longs que la nuit. Bon, ils disent que c'est comme Tammuz ressuscité, quelque chose de ce genre-là. Voilà. Et ces femmes-là étaient en train de faire ce culte-là, de pleurer Tammuz. Mais est-ce que Dieu qui a fait les cieux et la terre, nous avons besoin de le pleurer? Pas du tout. Celui qui a fait les cieux et la terre, il ne va pas mourir. Il ne va pas se faire taper. Il est tout puissant. Mais les gens préfèrent suivre un Dieu qui est mort et donc et que l'on pleure. Vous vous rendez compte de... Mais avec dévotion, puisqu'elle pleure. La dévotion n'est pas la vérité. Les gens, quand ils adorent les ancêtres, c'est avec dévotion. Ils vont déposer des choses sur la tombe. Avec dévotion, parfois ils mettent vraiment des bons repas, ils amènent. Mais les bandits viennent voler la nuit. Il y a des gens qui déposent aux Antilles, il y a des niches avec des figurines de la Marie catholique. Et les gens viennent déposer des offrandes parfois. Mais comment cette divinité-là n'empêche pas que les gens volent? Parce que les bandits, eux, ils comprennent que tout ça c'est des escroqueries. Mais ceux qui font, ils font ça avec dévotion. Les bandits, la nuit, viennent récupérer tout ce que les gens déposent. C'est ce qu'il se passe là. Ils pleurent, elles pleurent Tammuz avec des dévotions. Mais c'est complètement l'erreur. Voilà. Comme un frère nous avait dit, ils font partie du département, hein, la division, la DGSE, la division des gens sincèrement dans l'erreur. Ils sont sincères, comme on a dit dans la définition. Ils sont sincères, mais dans l'erreur. Ils sont confiants, mais dans l'erreur. C'est ça la dévotion. Nous continuons.
Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du parvis de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil.
Voilà, on s'arrête là. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Donc il y a des gens qui tournent même le dos au temple. Donc le temple du Dieu vrai, ils lui tournent le dos. Ils adorent le soleil. Le soleil n'est qu'une créature. Comment vous pouvez adorer une créature? Mais ils le font avec sérieux et dévotion, et c'est des personnes respectables. Bien-aimés, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu sens quelque chose fortement en toi que c'est la vérité. Nous devons prendre pour habitude de comparer avec ce qui est écrit dans la Bible. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la Bible. En dehors de ça, il n'y a point de vérité. Ce ne sont que des choses temporaires. Je ne suis pas la vérité, je suis temporaire. Un jour, je vais mourir. La reine d'Angleterre vient de mourir. Mais elle était comme une sorte de vérité pour beaucoup de Britanniques. Mais non, c'est faux. Elle est morte maintenant. Le stade Maracana que nous voyons au Brésil, à Rio de Janeiro, ce n'est qu'une illusion parce qu'il y aura un temps où ça sera détruit, il n'y aura plus ça. Cette terre n'est pas la vérité parce qu'elle sera détruite un jour. La vérité, elle est immuable, c'est Dieu lui-même, c'est son Fils, c'est sa parole, c'est la Bible. Que personne ne nous distrait, ne nous trompe par sa dévotion. Quand vous entendez certaines personnes parler de leur conversion à telle religion ou bien d'un témoignage de ce qu'il a obtenu dans telle religion, vous êtes épatés. Mais quand vous scrutez bien les choses, vous vous rendez compte que c'est faux. Cette doctrine, cette position est fausse. Pourtant, malgré sa fausseté, elle produit de la dévotion. Donc du coup, nous ne pouvons pas nous reposer sur la dévotion pour penser que quelque chose est dans la vérité. Il y a certains, quand ils font un rêve, pour eux, c'est la vérité. Ils se réveillent avec une force, mais quand on confronte ce rêve aux Écritures, on dit à la personne, mais ton rêve n'est pas biblique. Ce n'est pas la vérité. Ah oui, mais je me suis réveillé avec une force. Mais oui, mais même la fausseté peut produire cette force-là. C'est ce que nous allons voir. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Actes 17, 22, 33.
Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion,
voilà,
j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un dieu inconnu. »
Voilà ce que Paul dit aux Athéniens. Il arrive à Athènes, il voit la ville remplie d'idoles, remplie d'idoles. Il dit « Mais ça c'est quoi ?» Et il était irrité, c'est écrit au verset 16 qu'il était irrité dans son cœur. Je dis, mais comment un objet peut être Dieu? Parce que toutes ces idoles sont vénérées, sont adorées. Il y a beaucoup de pèlerinages dans le monde entier où les gens font des pèlerinages auprès des gens qui sont déjà morts, des rabbins morts, des imams morts, des prêtres morts, des nonnes mortes. Il y a des gens qui font des pèlerinages à Fatima, tout ce que vous voulez, pour des gens qui sont déjà morts. Est-ce que ça, c'est logique? Et Paul est face à cette ville, il est dans cette ville remplie d'idoles, il dit, mais ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi il leur dit, je vous trouve religieux, je vous trouve très engagé dans vos dévotions, mais je veux vous dire que ce n'est pas la vérité. Je veux vous présenter maintenant la vérité. Nous lisons ce que le frère Paul dit.
Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.
C'est, l'explication est simple, bien-aimé, mais vous savez, la dévotion, ça perturbe. Quand on voit les gens faire quelque chose, se sentir bien dans ça, on pense que c'est ça la vérité. Non. Et quand on est déjà dans une famille qui est dans ça, on suit bêtement, puisqu'on voit que la famille existe par ça, vit par cela. C'est faux, c'est pas ça la vérité. La famille, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est Dieu, c'est la Bible, c'est les Écritures. Et Paul leur dit, mais comment vous pensez que Dieu puisse te fabriquer par des mains d'hommes? Dieu est au-dessus de tout ça parce que c'est lui qui donne à tout le monde la respiration. Donc il est au-dessus de ce que vous voyez là, qui sont des objets inertes. Nous continuons.
Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts.
Voilà. Voilà ce qui vient tout trancher, c'est là. Le frère Paul leur dit, mais vous adorez des choses que la main humaine a fabriquées. Or, si nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu ne peut pas être quelque chose que nous-mêmes nous fabriquons. Il doit être quelque chose qui nous ressemble, mais en plus grand. Comment vous pouvez le réduire en des objets fabriqués par les humains? Il dit, je veux vous expliquer les choses. Il y a beaucoup de sources, beaucoup de entre guillemets, de vérité, mais Dieu a donné la vraie vérité en envoyant son Fils sur la terre. Et comment nous savons que ce n'est que celui-là, Jésus, qui est la vérité? Il le dit au verset 29, au verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La résurrection de Jésus, c'est ça la vérité. C'est ça qui montre que la vérité, ce n'est que lui. Parce qu'il a vaincu ce que tout homme espère vaincre, la mort. Il est entré dans l'éternité par la victoire sur la mort, ce qu'aucun de prophète d'envoyé de Dieu, prétendu envoyé de Dieu, n'a pu faire. Aucun n'a pu faire cela. Comment nous savons que nous sommes dans la vérité? Ce n'est pas parce qu'il nous a touchés, c'est parce qu'il est ressuscité. Les gens, les premiers chrétiens, quand ils se disaient bonjour, ils ne disaient pas bonjour, ils disaient « Le Seigneur est ressuscité ». Et l'autre répondait « Il est vraiment ressuscité ». Parce qu'ils avaient compris que c'est ce point-là qui fait la différence avec toutes sortes de logiques et de doctrines. Parce que chacun, quand il présente sa logique et sa doctrine, il en parle avec dévotion. Il présente des pratiques de dévotion. Les musulmans ont le ramadan, c'est une pratique de dévotion. Beaucoup diront, mais oui, beaucoup, ils mangent beaucoup pendant le ramadan, ils s'amusent. Mais il y a des musulmans sérieux qui ne s'amusent pas pendant le ramadan, qui font vraiment le travail qu'ils doivent faire. Il y a des musulmans qui, même en dehors du ramadan, jeûnent quand même un à deux jours par semaine. Et quand ils parlent de tout ça, vous sentez qu'ils sont comme épanouis. Mais il y a des catholiques. Quand ils vont vous parler des choses, vous sentez qu'ils sont comme épanouis. Il y a des adorateurs de Satan aussi. Il y a des églises qu'on appelle les adorateurs de Satan. Quand eux aussi parlent, vous avez l'impression qu'ils sont bien dans ça. L'apôtre Paul dit, mais si nous devons suivre tout ça, nous sommes perdus. Voilà comment nous pouvons savoir que la vérité se trouve quelque en Jésus, c'est la résurrection. Il a vaincu la mort. Parce qu'à quoi va servir une religion, une conviction, si ça ne te permet pas de vaincre la mort? Ça ne sert à rien. De toute façon, tu vas vivre comme tout le monde, même comme un animal, et puis tu vas mourir un jour. À quoi te sert de croire si ta foi, ta croyance ne te conduit pas à la résurrection? Si celui qui te présente cette croyance-là, le messager principal, lui-même n'est pas ressuscité, comment il peut t'apporter la vérité? Comment il peut te proposer la résurrection? Bouddha n'est pas, il n'est pas ressuscité. Or, sa doctrine, c'est quoi? C'est que en suivant le cycle du karma, c'est-à-dire tu meurs, tu ressuscites en une créature qui va te permettre de payer pour les péchés que tu as commis dans l'ancienne vie. De cycle en cycle, de mort-résurrection, de mort et réincarnation plutôt, tu vas payer les péchés jusqu'à atteindre la perfection qu'on appelle le nirvana, où tu ne vas plus mourir. Mais lui-même, Bouddha, est mort. Donc, il n'a pas atteint le nirvana. Alors, comment lui peut proposer aux gens le nirvana? Lui-même ne l'a pas atteint. Ce n'est pas la vérité. Mais les gens qui pratiquent ça ont de la dévotion. Ils ont de l'énergie. Paul dit, tout ce que l'homme ressent, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est un homme. C'est Jésus. Comment nous le savons? Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a démontré qu'il avait les moyens de sa politique. Et il est ressuscité dans la gloire, avec un corps qui pouvait traverser le mur. C'est ce que nous espérons en lui. Voilà la vérité. C'est ce que Paul dit à tous ces gens-là. Il dit, mais vous suivez toutes ces idoles-là. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul qui est la vérité. C'est Jésus. Parce que comment nous le savons, il est ressuscité. Ça a calmé tout le monde. Vous savez, quand il développait, personne n'intervenait parce que les gens, si vous lisez tout le texte, les gens à Athènes étaient habitués au développement, au discours, au débat. Donc pendant qu'il développait, Dieu ne peut pas être une idole, un objet, il l'écoutait parce qu'ils étaient habitués à écouter des développements. Mais quand est-ce qu'il va les déstabiliser quand il parle de la résurrection? Il dit, comment nous savons que celui-là, c'est le bon? Parce qu'il est ressuscité. Là, ils réagissent. Au verset 33, ils disent, « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc, quand il présente la résurrection, c'est là que ça tranche avec toutes les autres doctrine, philosophie, pensée. Là, on a quelqu'un qui avait promis qu'il mourrait et qu'il ressusciterait, et il l'a fait. Il l'a fait. Ça tranche, c'est ça Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu la mort. C'est lui la vérité. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église. Parce que tout ça va passer. C'est Jésus qui est la vérité. Nous lisons Matthieu 23, 13 à 15. Pardon, excuse-moi, on peut commencer d'abord par Luc 18, 9 à 14. Luc 18, 9 à 14.
Il dit encore cette parabole en vue d'une certaine personne se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.
Voilà, il y a deux personnes qui vont prier au temple. La première qui est un pharisien, un dignitaire religieux, homme respectable dans la religion juive, il dit, mais moi, il présente sa dévotion à Dieu. Il présente son dévouement à Dieu. Il dit, oh Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme tous les autres. Moi, je suis arrivé à vivre. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis arrivé à vivre sans être un ravisseur, un injuste, un adultère. Je ne suis même pas comme mon voisin là qui prie à côté, qui est un collecteur d'impôts. Souvent, ils volent les gens, ces gens-là. Il continue la liste de ses œuvres. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne l'argent qu'il faut, ma dîme, le 10% au temple, de tous mes revenus, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça la dévotion. Parce que beaucoup vont dire, mais d'où lui vient cette force-là d'être correct comme ça, de ne pas être injuste, de ne pas être ravisseur, de ne pas... D'où lui vient cette force de donner son 10% comme il faut? Mais ça peut venir de l'homme et des esprits. Ça peut venir de... La religion, c'est des esprits. Les esprits peuvent donner cette force. Et maintenant, quand ce monsieur-là dit qu'il est injuste, il n'est pas injuste. Ça, c'est lui qui le dit. Deuxième point, un autre point, c'est celui-là. C'est que la dévotion donne à la personne une sensation de justice. Donc, tu te crois juste. Parce que l'erreur qui est commise, c'est la comparaison avec les autres. Non, mais moi, je ne suis pas comme les menteurs. Moi, je ne suis pas comme Jacques Mesrine. Je ne suis pas comme tel bandit, tel assassin. Oui, mais tu n'es pas comme lui. Mais est-ce que tu es comme Dieu? La comparaison, il ne faut pas le faire avec les assassins, les bandits, les voleurs, les impudiques, les prostituées. Non, si tu veux te rendre juste, compare-toi avec Dieu. Et c'est là que l'échec va venir. Mais ces gens-là se comparent aux autres. Dans leur dévotion, ils se disent, je me dévoue plus que les autres. Mais Dieu dit, mais ce n'est pas ça qui fait que tu deviennes comme moi. Ce n'est pas ça. Donc tu n'es pas juste. Donc lui se déclare juste, mais il n'est pas juste selon Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à la fin, il n'a pas été justifié. Il n'a pas été considéré comme juste. Mais l'autre disait quoi? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis pas digne de me tenir ici. Je suis un homme faible. Aie pitié de moi et transforme-moi. Jésus dit, c'est celui-là qui disait, aie pitié de moi et transforme-moi. Celui-là a été sauvé. Il a été considéré comme juste par Dieu. Comme quoi, ce n'est pas ta dévotion, tes sensations, la force que tu sens dans ce que tu penses qui fait que c'est la vérité, que c'est juste. Non, c'est ce qui vient de Dieu qui est juste, qui est vrai. C'est ça. Ce ne sont pas tes efforts. Ce n'est pas ton dévouement qui fait de toi un homme vrai. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu qui transforme. Quelqu'un qui dépend de la grâce de Dieu, c'est celui-là qui est juste. C'est celui-là qui est dans la vérité. Parce que comme le frère Paul l'a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, c'est lui qui fournit la respiration, le mouvement. C'est Dieu qui fournit tout ça. Donc quand quelqu'un dépend de Dieu, donc il aura la bonne, les bonnes fournitures. Il aura la vraie parole, il aura la vraie dévotion, puisque Dieu donne aussi ça. Il donne une puissance pour le servir. Ben, ça sera la vraie. Ce n'est pas celle que donne le mental, sa propre conviction ou les mauvais esprits. Et il est écrit que cet homme, ce pharisien-là, n'a pas été justifié. Bien aimé, il ne se limite pas qu'à ça. Nous lisons maintenant Matthieu 23, 13 à 15. Ces gens-là ne se limitaient pas qu'à avoir un comportement humainement, en apparence correct. Mais ils allaient même travailler pour convertir d'autres juifs à suivre vraiment la religion. Ils travaillaient. Mais, vous savez, il est écrit ailleurs, Jésus les connaissait. Ces gens-là, ils faisaient du commerce des choses de Dieu au temple. Mais là, ils ne voyaient pas ça comme étant un péché. Mais pourtant, c'était un péché si on devait suivre la Bible. Nous continuons. Matthieu 23, 13 à 15.
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement.
Vous faites pour l'apparence des longues prières. Et les gens vous disent, oh, mais c'est extraordinaire. Ce frère-là, quand il fléchit le genou, il peut commencer de minuit à 5 heures. Mais c'est quoi? Est-ce que Jésus, quand il priait, faisait la publicité? Il nous est dit que Jésus priait, quand il a choisi les disciples, il a prié toute la nuit. Et chaque jour, il sortait très tôt le matin, il allait prier. Est-ce qu'il faisait? Il faisait la pub. Pourtant, le même Jésus, dans la barque, il dormait. Il vivait une vie en connexion avec Dieu à tout instant. C'est ça la dévotion véritable. C'est pas ce que tu vas produire. Et puisqu'après tout, même si c'est bon, c'est que tu produis, mais ça vient de Dieu, ça ne vient pas de toi. C'est la grâce de Dieu. Ah ben, ils font de longues, longues prières. Mais c'est... Nous continuons, verset 15.
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous.
Voilà, Jésus dit, mais vous courez partout pour transformer des juifs en véritables croyants, mais après, dès que vous les prenez, vous les abîmez. Mais c'est ce que font les fausses doctrines aujourd'hui, les faux mouvements, tous ceux qui s'appuient sur autre chose que Jésus-Christ, ceux qui s'appuient sur la prospérité, sur l'argent, ceux qui s'appuient sur un homme comme Branham, ceux qui s'appuient sur des dogmes qu'eux-mêmes ils ont inventés, le catholicisme, et d'autres, ils s'appuient sur des choses inventées par les humains. Ils courent la terre et la mer pour chercher des gens, mais ils les abîment, ils les éloignent de la vérité. Voilà. Il dit, un jour, la vérité sera rétablie. Alors, bien-aimé, ne cours pas, ou bien ne reste pas là où tu dis, mais je me sens bien. Mais ce n'est pas une question de se sentir bien, c'est une question de vérité. Le voleur aussi, quand il a volé que son coup a réussi, il se sent bien. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Ah non, mais moi je me sens bien ici. Mais non, ce n'est pas une question de se sentir bien. C'est la vérité qu'il faut chercher. Et la vérité ne bouge pas, quel que soit l'endroit. Il faut chercher là où c'est Jésus qui est mis en avant. Là où c'est la Bible qui est considérée comme étant le socle de foi et de doctrine. C'est ça la vérité. Là où cette Bible a été appliquée. Et non pas les pensées, la logique de quelqu'un qui vous dit, j'ai été au ciel, j'ai rencontré Dieu, il m'a dit A plus B plus C, maintenant je fonctionne en fonction de ça. Oh, faites attention. Faites attention. Un vrai de Dieu va fonctionner en fonction de ce qui est écrit. Pas en fonction de ce que Dieu lui aurait dit dans un songe, non. Il va fonctionner en fonction de la Bible. C'est la Bible qui tranche. Parce que si tout le monde doit suivre ce que un rêve a donné comme révélation, ben c'est la confusion, c'est le désordre qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez, ces pharisiens-là, ils étaient dans une forte dévotion, mais Jésus dit qu'ils étaient malheur à eux, malheur. Parce que ce n'est pas une dévotion qui venait de Dieu, c'est une dévotion qui venait d'eux-mêmes. C'est leur force, c'est les esprits religieux. Voilà, c'est la religion qui cherche à contrôler les autres, à faire son propre truc au lieu de suivre Dieu. C'est ça la réalité. Il faut suivre le Seigneur, dépendre de lui. L'apôtre Jean a dit, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est Jésus qui est la vérité. Mais cette vérité qui se vit par grâce et non par les efforts de l'homme, qui cherche dans la dévotion une assurance comme quoi il est dans la vérité. Non, nous devons recevoir notre assurance du fait que nous reposons notre vie sur Jésus-Christ. Nous allons finir par quelqu'un qui était proche de Jésus. Nous pouvons être proches de Jésus et être dans la dévotion charnelle, être dans un engagement humain. Et ça finit toujours mal. Nous avons besoin désormais de nous reposer sur Jésus et de le suivre lui ainsi que sa parole. C'est notre ami Pierre, premier épisode, Matthieu 16, 13 à 19. Nous allons voir quand Dieu parle, eh bien, c'est beau, mais attention, restons toujours dépendants de Dieu. Matthieu 16, 13 à 19.
Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, et l'un des prophètes, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
Amen, amen. Jésus demande aux gens, mais à ses disciples, « Mais vous, qu'est-ce que vous entendez de moi chez les gens? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Ah oui, mais tu es un prophète. Ah oui, mais tu es Jean-Baptiste qui est revenu. » Chacun y allait de sa pensée. Et l'apôtre Pierre, et quand Jésus demande maintenant, après plutôt, « Et vous, vous pensez que je suis qui ?» L'apôtre Pierre dit, « Nous pensons que tu es le Fils de Dieu vivant. » Voilà. Je vais relire ce que Pierre dit à Jésus. Il dit, « Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Tu es heureux, Pierre, de dire ces choses, mais ça ne vient pas de toi. Ça vient de l'Esprit de Dieu qui est passé par toi pour parler. Mais c'est, tu es heureux que ça passe par toi. Alors garde ça. Ce que tu viens de dire, garde. Et cette parole-là que tu viens de dire, c'est ça qui va être la fondation de mon Église. Parce qu'en grec, c'est pas comme nous on vient de lire, tu es Pierre et sur cette pierre, en grec, c'est pas ça. En grec, tu es Pierre sur ce roc. Je bâtirai mon église. Ce roc, quel était le roc? C'est que Pierre venait de dire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'église du Seigneur doit reposer sur Jésus. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ veut dire le Messie, le Sauveur, celui qui devait venir sauver. Le Roi Sauveur. Jésus, c'est le Roi Sauveur que Dieu a envoyé. C'est lui le Fils de Dieu vivant, venu sur terre pour nous sauver. C'est ça le fondement de notre croyance. Il dit, sur ce fondement-là, c'est là que moi je bâtirai mon église. Donc tous ceux qui bâtissent en fonction du fondement de l'argent, d'un mouvement, d'une façon de faire, comme quoi avant de prier, il faut enlever les chaussures, tout ça c'est des faux fondements. Le seul fondement, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est sur ce fondement qu'il faut bâtir. Et il dit à Pierre, tu es heureux. Et d'ailleurs, à cause de ce fondement, je vous donne l'autorité. Si vous êtes dans ce fondement-là, je vous donne l'autorité de marcher sur les démons. Vous allez briser. Vous pouvez prendre des décisions sur la terre qui seront acceptées par le ciel à cause de ce fondement-là, à cause de votre foi en Jésus, Fils de Dieu. Quelle autorité lorsque nous croyons en la vérité? C'est une autorité qui dépasse les sensations de la dévotion. Ça dépasse tout cela. Et nous lisons le deuxième épisode, 21-23. Pas loin, Matthieu 16, 21-23.
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. »
Voilà, Jésus dit, comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, il dit « Bientôt, je vais souffrir, on va me prendre, on va me crucifier, mais je ressusciterai le troisième jour. » Pierre dit « Mais non, c'est pas possible. » Il le prend même à part et dit « Mais non, c'est pas possible. Toi, tu es le Messie, le roi. Combien de fois ils ont cherché à t'attraper, ça n'a pas marché. C'est toi le grand vainqueur, tu vas te laisser attraper et te crucifier, c'est faux ça. Je ne pense pas que Dieu veut ça. » Mais c'est le même Pierre qui venait de dire que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur. Maintenant, si Jésus est le Fils de Dieu, il te dit une chose. Toi, tu suis qui? Ce que lui dit ou bien ce que toi, tu penses? Jésus cite les Écritures quand il dit qu'il doit souffrir et mourir. Pierre refuse, il dit, mais non, ce n'est pas logique. Qu'est-ce qui est logique? C'est la Bible. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que nous pensons. Et à cause de ça, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Au fait, il a senti l'esprit qui était derrière Pierre. C'est pour vous dire que la dévotion peut venir de Satan, ça peut venir des esprits. Lorsque Pierre est en train de reprendre Jésus, il est rempli de force en disant, mais non, Dieu ne veut pas ça, tu te trompes, Seigneur. Mais comment ça? C'est lui le Fils de Dieu, c'est lui qui vient du ciel, c'est lui qui est Dieu, lui, c'est lui qui te dit. Maintenant, comment il peut se tromper encore? Jésus dit, mais c'est Satan qui est derrière toi, car tes pensées sont des pensées d'homme. Donc, quand l'homme réfléchit, il fait ses pensées, ça finit par être en connexion avec la puissance diabolique et produire une force qui peut créer une forme de dévotion. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient des esprits. Beaucoup sont épatés quand ils entendent les témoignages. Ah oui, j'avais telle vie, mais j'ai assisté à telle messe. Comme là, j'écoutais le témoignage d'un ex-catholique qui était devenu, non, plutôt d'un ex-franc-maçon. Il était catho, il est devenu franc-maçon. Et ensuite, lors d'une messe, je ne sais pas, c'était le jour de la mort de Jean-Paul II. Un ami l'a dit, mais allons voir comment ça va se passer, l'enterrement, tout ça. Et le jour, au moment de la messe de l'enterrement de Jean-Paul II, il dit, je me suis retrouvé face à face avec Dieu. Et du coup, il a quitté la franc-maçonnerie. Il est redevenu catholique pratiquant. Alors, devant un beau témoignage comme ça, nous sommes glacés. Mais ce n'est pas la vérité. C'est ce que nous devons comprendre. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a touché alors? Mais oui, Satan peut toucher. La chair aussi peut se manifester. L'homme, ses raisonnements peuvent se manifester. Nous devons apprendre à être stricts avec la vérité. La vérité, c'est seul Jésus. Ce n'est pas un pape mort qui va te créer, qui va te transformer. S'il devait se transformer, il devait se transformer lui-même. Il ne devait pas mourir. C'est celui qui est ressuscité qui est la vérité, qui a vaincu la mort. Ce n'est pas un homme de Dieu mort qui est la vérité, c'est celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. C'est très important, bien-aimé. Vous voyez Pierre qui, à un moment donné, il dit la vérité, mais après, quand il revient dans ses raisonnements, Satan vient se mêler, il dit quelque chose de grave. Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se sont fait tromper. À un moment, ils étaient dans la vérité. Mais ils ont vécu une expérience. Je parlais à quelqu'un, il me disait, mais oui, mais moi j'avais des problèmes. Et ce serviteur l'a prié pour moi, j'ai été guéri. Mais est-ce que c'est une raison pour suivre ce serviteur dans la fausseté? Vous voyez quelqu'un qui argumente comme ça, mais non, c'est pas vrai. La vérité reste Jésus, reste la parole de Dieu. C'est pas, je ne peux pas tout expliquer concernant les expériences que les gens vivent. Mais je sais qu'une chose est claire, la vérité, c'est Jésus seul. C'est la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui fait quand même par amour pour ces gens-là vivre ces expériences-là? Ou c'est Satan, je ne peux pas dire à 100% chaque fois c'est qui, mais ce qui est sûr, c'est que ces gens-là professent, ce n'est pas la vérité. Et ça finira par tuer ces gens-là spirituellement. Comme Jésus a dit, vous prenez les gens, vous en faites des fils prêts pour l'enfer. Mais ces gens-là se disent, mais non, mais j'ai été touché, je me sens bien, mais non. Beaucoup de voleurs se sentent aussi bien. Nous lisons dans Matthieu 26, 30 à 35, toujours notre ami Pierre. C'est pour nous dire, attention, la force que tu sens en toi n'est pas forcément la vérité. Ça ne vient pas forcément de Dieu. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la Bible. Voilà.
Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, je ne le serai jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose.
Voilà notre ami Pierre qui revient encore avec sa force personnelle. Jésus dit, « Ça va mal se passer ce soir quand on va m'arrêter. » Vous serez en trouble. Vous serez dans le trouble. Pierre dit, ah non, 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 non. Eux, les petits-là, eux, ils peuvent être déstabilisés, mais moi, je ne serai pas déstabilisé. Jésus dit, mais je te préviens même que tu vas me renier trois fois avant que le coq ne chante. Pierre dit, oh Seigneur, c'est impossible. Hein? Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Oh. Mais qui est la vérité, qui est la parole de Dieu? C'est celui qui parle là, Jésus. Il lui dit, ça sera difficile pour vous aujourd'hui, ce soir. Lui dit, mais non, ça sera difficile peut-être pour eux, mais pas pour moi. Hein. Moi, je t'aime. Je me sens être attaché à toi. C'est ça la dévotion. Tu te sens fort dans quelque chose. Jésus dit, oh mon ami, c'est moi la vérité. Je te dis que tu vas me renier trois fois. Pierre a dit, mais non, c'est impossible. Là, tu vas trop loin. Moi, je ne peux pas te renier. Tu es mon maître. C'est quelle force? La force de l'homme, la force de mauvais esprit. Et nous arrivons au dernier passage à lire aujourd'hui, Matthieu 27, 69 à 75. Pardon? Ah, excuse-moi, Matthieu 26, 69 à 75.
Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. »
Voilà. Il s'est souvenu. La vérité avait parlé. C'est Jésus qui est la vérité. Lui, il a contesté. à cause de sa propre force, de ce que lui il pensait sentir en lui, qu'il est très attaché à Jésus. Bien-aimé, ne te fie pas à la force que tu sens en toi. Tu dois te fier à ce que Jésus a dit pour toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Jésus a dit, mes brebis sont dans ma main. Personne ne peut les ravir de ma main. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque passe par moi ira au ciel. Tu dois te fier à ce qu'il a dit. Ce n'est ni par la force ni la puissance, c'est par mon esprit. Ne te repose pas sur ton énergie d'un moment. Repose-toi sur la parole de Dieu. En résumé, c'est quoi la vérité? C'est Jésus-Christ, Sauveur, ressuscité. Premier point. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur et ressuscité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur et ressuscité. C'est ça qui montre la vérité. Lui seul a donné sa vie à la croix pour te sauver. Aucun de tous les hommes qu'on peut citer n'a donné sa vie pour qui que ce soit. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver. Il est le Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Il est né sans père. Il a démontré qu'il était Fils de Dieu par tous les miracles qu'il a faits. Ensuite, il est mort pour expier nos péchés. Il a été condamné à notre place. Il a pris nos péchés sur lui. C'est ça qui a conduit à ce qu'il soit condamné par la mort. Mais, comme lui-même n'avait pas péché, il est ressuscité le troisième jour, vivant jusqu'aujourd'hui pour défendre ce que lui-même a amené comme vérité. Deuxièmement, la Bible, lue avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ça les deux points qu'il faut garder. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, ressuscité, la Bible avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ça la vérité. Que personne ne nous éloigne de ça par une quelconque théorie ou logique disant que c'est de telle manière qu'on fera, que les choses se produiront des résultats. Non. C'est en suivant Jésus comme socle. Fils de Dieu, à travers sa parole. La parole, elle est objective. Donc, elle est là, devant nous. À travers sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est là que nous sommes, dans la vérité. Ne laissons pas la dévotion nous perturber, les grands témoignages des uns des autres nous perturber. La vérité reste la vérité. C'est telle que nous devons suivre. Car un jour, tout le reste disparaîtra. Nous serons face à face avec Dieu. C'est la vérité qui permettra qu'on aille avec lui et la non-vérité nous perdra à jamais. Choisissons la vérité et que Dieu nous aide. Amen.